Europe 1.
François Girolf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui vient de réviser à la baisse sa prévision de croissance pour 2024 de 0,8 à 0,5%, au moment même où Bruno Le Maire, toujours optimiste, tablait lui sur 1% de croissance en 2024. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, en grande partie, c'est la révision du déficit public qui a fait beaucoup couler d'encre et parler cette semaine, qui est passé de 4,9% du PIB à 5,5%. Donc, une très mauvaise surprise sur ce front-là. Ce qui veut dire que le gouvernement va devoir faire des économies budgétaires plus vite que prévu. Et ces économies budgétaires vont être très mauvaises pour la croissance l'an prochain, selon qui va faire effectivement 10 milliards d'euros, 20 milliards d'euros, peut-être même 50 milliards d'euros, si on écoute le premier président de la Cour des comptes.
D'économie budgétaire,
on va avoir un effet significatif sur l'activité économique.
C'est mécanique, donc, au fond. S'il y a moins de dépenses publiques, mécaniquement, il y aura moins de croissance.
Alors moi, je crois beaucoup, effectivement, à cet effet-là, l'effet du multiplicateur, comme on dit, budgétaire, multiplicateur keynésien. Mais c'est vrai que c'est un sujet de débat entre économistes. C'est même un sujet très important en macroéconomie, de savoir quelle est l'ampleur, quelle est la taille de ce multiplicateur budgétaire. Les économistes, comme d'habitude, ne sont pas d'accord sur ce sujet. Mais la plupart des économistes, y compris le FMI aujourd'hui, dit que le multiplicateur budgétaire est quand même relativement important et que donc, quand on baisse les dépenses publiques, on a une baisse du PIB.
On savait que l'économie, c'est compliqué. Hein. Dès qu'on bouge quelque chose, ça peut avoir des conséquences qu'on avait prévues ou pas prévues. Mais là, vous êtes en train de nous dire que si on fait des économies de 20 milliards d'euros par an, par exemple, c'est ce qui est prévu par le gouvernement, ça va plomber la croissance et donc augmenter le déficit.
Alors ça va quand même diminuer le déficit dans la mesure où on va faire des économies budgétaires, mais de l'autre côté, effectivement, comme le PIB va diminuer, on va avoir moins de rentrées fiscales et donc le déficit va diminuer de moins que les économies que vous allez faire. Si le multiplicateur budgétaire, comme on dit, c'est-à-dire l'effet sur le PIB d'une baisse des dépenses publiques est très très important, on peut même avoir, comme on a vu en Grèce entre 2010 et 2015, une augmentation du déficit public alors même qu'on essaye de faire des économies.
Pour que la croissance redémarre, François Girolf, il faudrait quoi ? Que l'inflation retombe, que la consommation reprenne, que les taux d'intérêt diminuent, que les investissements augmentent, que
tout
le chômage baisse. Et on en est où pour le moment ?
Bah, tout ça en même temps serait absolument formidable. Alors il y a des choses qui dépendent de nous. Hein. La baisse des taux de la Banque Centrale Européenne, c'est quelque chose que la Banque Centrale Européenne pourrait décider.
Mais qu'elle ne décide pas.
Qu'elle n'a pas décidé jeudi. Alors, effectivement, la question c'est est-ce qu'elle va baisser ses taux en juin, puisque c'est la prochaine réunion de politique monétaire. Je l'espère très fortement, et je pense qu'un certain nombre d'économistes, et aussi le gouvernement français, l'espère très fortement. Ensuite, il y a effectivement la question du chômage, du pouvoir d'achat. Est-ce que les salaires vont finir par rattraper les prix ? Ça va dépendre beaucoup de ça, donc ça va beaucoup impacter le revenu des ménages. Ensuite, on va voir effectivement est-ce que le secteur de l'immobilier va remonter à la suite de la baisse des taux qui va commencer. Ça aiderait aussi beaucoup le PIB. La construction, on sait, à ce moment-là, est dans une très mauvaise passe et pèse de manière très négative sur le PIB français. Ça va dépendre de tout ça en même temps. Et puis, il y a quand même une singularité française actuellement qui est le taux d'épargne, qui a un taux très élevé. Donc, on parle sans cesse du déficit public à un niveau très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'épargne privée, très importante. Et en fait, la France est un peu championne dans ce domaine-là. Et elle est championne d'autant plus depuis 2018, où le taux d'épargne a augmenté en fait de 4 points. Il est passé de 14% à 18% du revenu. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a plutôt tendance à mettre l'accent sur les mauvaises nouvelles.
C'est une bonne nouvelle. Bon, les Français ont amassé 240 milliards d'euros en 4 ans. Ouais. Mais comment les inciter à en dépenser une partie ? Parce que s'ils les gardent, ça n'a aucune influence sur l'économie.
Mais à ce moment-là, à partir du moment où vous dites ça, c'est que vous êtes comme moi, un keynésien. C'est-à-dire que vous pensez que le problème dans l'économie, c'est qu'il n'y a pas assez de consommation.
Je fais allusion à ce que vous disiez.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire que le taux d'épargne en hausse fait que c'est plutôt une mauvaise chose pour l'économie. Mais après, pour ceux qui pensent que le taux d'épargne de l'État a baissé énormément. Ce qu'ils mettent jamais en regard de ça, du 5,5% de déficit, c'est qu'en face, le taux d'épargne privé a augmenté énormément. Et donc, il faut s'inquiéter. Normalement, ce qui nous intéresse, c'est le taux d'épargne complet de la France, c'est-à-dire privé plus public. Et donc, c'est vrai que le taux d'épargne public est en baisse, mais le taux d'épargne privée est en forte hausse, et même il plus que compense le déficit public. Donc pour ceux qui sont inquiets du fait que la France vit au-dessus de ses moyens, par exemple, c'est quelque chose qu'on entend très souvent, en fait, c'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire que depuis 2018, il y a une hausse du taux d'épargne de 4 points, dont, à mon avis, on devrait parler un petit peu plus.
Mais ceux qui en parlent parmi les économistes sont généralement ceux qui se disent qu'il faudrait imposer davantage les Français pour que l'argent qu'ils épargnent revienne dans le circuit.
Oui, mais si vous faites ça, vous allez détruire autant d'épargne privée que vous allez réduire le déficit public. Et donc finalement, l'effet sur l'économie, quelque chose comme ça, ne sera pas très très important. En revanche, si vous commencez à taxer des gens qui consomment, là, vous allez avoir un effet négatif sur l'activité. Donc effectivement, si on taxe, on va dire, les plus riches ou les plus hauts revenus, eux, c'est des gens qui épargnent une très grande partie de leurs revenus, notamment quand ils vont, si vous leur donnez un euro de plus, en général, ils vont l'épargner entièrement, puisque voilà, ça les intéresse même pas. Donc effectivement, ça, je pense que ça va pas avoir énormément d'impact sur l'activité économique. Ce qu'il y a, c'est que le gouvernement n'a pas envie de faire ça, puisque c'est un signal très important pour lui envoyé à l'attractivité de la France depuis 2017. Et donc, apparemment, il a pas envie de revenir sur ces baisses d'impôts.
Non,
et donc,
Emmanuel Macron l'a redit, hein, on n'augmentera pas les impôts. On fait une pause, François Girolf, on y revient tout de suite après.
9h, 10h.
C'est arrivé cette semaine sur Europe 1. Europe 1.
9h, 10h. C'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes ce matin avec François Girolf, économiste à l'OFCE. L'OFCE qui vient de réviser à la baisse la prévision de croissance pour 2024 du gouvernement et la sienne par la même occasion, hein, puisque vous aviez prévu 0,8% de croissance en 2024. Finalement, vous êtes retombé à 0,5%. Bruno Le Maire, lui, table sur 1%. Alors, on le disait, pour que la croissance redémarre, il faudrait que l'inflation retombe, que la consommation reprenne, que les taux d'intérêt diminuent, que les investissements augmentent, que le chômage baisse. Il faudrait aussi que les exportations se redressent, non ?
Oui, c'est vrai. Donc, du point de vue des exportations, ça fait un moment que la France fait figure de lanterne noire, un petit peu en Europe notamment. On a beaucoup de mal à exporter. Et c'est vrai qu'on on a eu un discours assez optimiste du gouvernement sur la réindustrialisation, que vous avez peut-être entendu. Mais en réalité, dans les chiffres, on a du mal à voir cette réindustrialisation pour le moment. Les parts de marché de la France continuent à baisser, en fait, à l'exportation. Et donc, ça reste une vraie difficulté. En revanche, là où les entreprises et les multinationales françaises sont un peu meilleures, c'est dans les investissements à l'étranger. C'est vrai que là, on arrive à rapatrier des revenus, notamment à l'étranger. Donc, on arrive à produire à l'étranger pour les marchés étrangers. En revanche, à produire en France pour les marchés étrangers, ça, on a de plus en plus de mal. Et effectivement, je pense que c'est un sujet de progrès pour l'économie française.
Beaucoup de gens sont dans la nostalgie de Georges Pompidou, à la fois Premier ministre, mais surtout Président de la République. Et moi-même, je l'adore. Hein. Donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, sur Prol début des années 70, la France, l'inflation était basse, la consommation était haute, ouais. Les investissements augmentaient, les taux d'intérêt diminuaient, le chômage baissait, les exportations se redressaient, tout était formidable, mais on a oublié que les Français étaient beaucoup plus pauvres qu'aujourd'hui.
Ah oui, non, faut pas tomber dans une nostalgie outre mesure. Enfin, je pense qu'effectivement, le pouvoir d'achat a beaucoup augmenté depuis ces années-là. La question, c'est plus de savoir si depuis les années 2000 ou même 1980, en gros, depuis le tournant de la rigueur, là, les hausses de pouvoir d'achat sont faites beaucoup moins rapides. C'est vrai que les années 60, 70 sont des moments où, en fait, le pouvoir d'achat a augmenté de 5% par an. Depuis lors, ça n'augmente plus que de 1%, voire moins par an.
Mais tout était plus cher aussi.
Tout était plus cher,
les produits agricoles notamment. Le litre d'essence était plus cher sous Georges Pompidou qu'aujourd'hui.
Ah oui, non, c'est évident, les produits primaires, enfin les produits agricoles. Alors après, ça veut dire aussi que les agriculteurs, ils gagnaient mieux leur vie, par exemple. Enfin, c'est-à-dire, ça n'avait pas que des inconvénients. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, parfois, que notre pouvoir d'achat, il s'est fait aussi au détriment d'un certain nombre de secteurs, de travailleurs. Donc c'est le cas dans le secteur agricole et aussi dans le secteur industriel.
On paye moins cher notre baguette de pain, donc forcément...
Il y a quelqu'un qui gagne moins à un moment donné.
Évidemment.
Exactement.
Voilà. L'OFCE, dont vous êtes le représentant aujourd'hui, hein, François Girolf,
grosse responsabilité,
s'attend à beaucoup de faillites d'entreprises en 2024. 68 000 entreprises, hein, je crois me souvenir, devraient fermer leurs portes selon l'OFCE. Ça veut dire à peu près quoi ? 100 000 emplois supprimés ?
Oui, et ça c'est lié en fait au remboursement progressif des prêts garantis par l'État qui a été mis en place au moment du Covid. Et effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises zombies, on va dire, c'est-à-dire qui ont été laissés à flot à ce moment-là, qui ont été beaucoup aidés et qui auraient dû faire faillite en temps normal, à qui on a prêté de l'argent et qui vont avoir du mal de plus en plus à rembourser. Actuellement, si vous excluez les micro-entreprises, on voit que les faillites, effectivement, sont à un niveau supérieur à celui qu'elles avaient pendant la crise financière. Donc, il y a effectivement un effet de rattrapage. Mais la question, c'est de savoir, il y a un petit peu deux écoles. Il y a des gens qui pensent que c'est normal que le taux de faillite soit très important, puis d'autres qui pensent que c'est beaucoup plus inquiétant que ça, que c'est lié à la hausse des prix de l'électricité, notamment sur les très petites entreprises et les moyennes et petites entreprises qui sont en grande difficulté. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Il y a beaucoup de sujets d'inquiétude dans l'économie française et les défaillances d'entreprises en font partie.
Mais il y a plus que des sujets d'inquiétude. On dirait que tous les signaux sont au rouge.
Ouais.
Tous les signaux, parce qu'on n'a pas parlé du taux de prélèvement obligatoire, mais on atteint des records.
Non, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on a l'impression de s'en rendre compte d'un coup d'un seul, alors qu'en fait, je pense qu'il y a un certain nombre de signaux négatifs depuis au moins septembre, même depuis juin dernier, en réalité. Le gouvernement était très optimiste. Bruno Le Maire, notamment, avait eu un discours très, très optimiste en septembre, où il disait, contre les Cassandres, qui avait dit que l'économie française irait forcément mal, tout va bien, regardez. Et là, on est en train de se rendre compte progressivement que effectivement, ça va être très difficile. Et d'autant plus qu'en fait, ces difficultés budgétaires, je pense qu'il y a beaucoup de dettes hors bilan dont on ne parle pas. Par exemple, les fonctionnaires n'ont pas été revalorisés à hauteur de l'inflation. Ils ont été revalorisés seulement de 5,1% en 3 ans, alors que l'inflation est de l'ordre de 15%. Donc, vous voyez, il y a une formidable baisse de pouvoir d'achat en fait, des fonctionnaires sous cette période-là. Et en fait, le problème, c'est que du coup, dans les services de santé, dans tout un tas de services, on a du mal à recruter. Et ça veut dire que le gouvernement va éventuellement devoir faire un geste à l'égard de plein de professions qui jusqu'ici ont eu moins que ce qu'ils auraient pu attendre. Et donc non seulement le déficit est très important, mais je pense que les demandes sur le gouvernement vont se faire de plus en plus pressantes pour augmenter les dépenses. Et donc, effectivement, c'est très inquiétant, sans parler de la guerre en Europe, qui va potentiellement demander des efforts de défense supplémentaires, sans parler de la transition écologique, qui va demander énormément d'argent dans les années qui viennent. Et donc, effectivement, à un moment où on parle d'un déficit budgétaire extrêmement important, on se demande comment on va faire pour financer ça.
Merci pour toutes ces bonnes nouvelles, François Girolf. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE.
Merci à vous.
Et l'on a maintenant rendez-vous avec Emmanuel Hirsch, il est professeur d'éthique médicale.